Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes prises en charge des enfants et des adolescents. Alors, au-delà des prises en charge en établissement spécialisé ou à l'hôpital, eh bien, nous allons parler plus spécifiquement des prises en charge psychologiques, mais pas que. Beaucoup de parents se demandent s'ils doivent envoyer leurs enfants chez un psy ou un autre professionnel formé à la relation. Eh bien, nous verrons comment répondre à cette question. Quand faut-il consulter? Comment se déroulent des séances chez les psys? Quel type de prise en charge pour quelles difficultés? On parlera pas que des psys, hein, je précise. Nous allons tenter d'y répondre avec Anne-Marie Kustams, coordinatrice pour le programme de réussite éducative à l'ODEV. On accueille aujourd'hui aussi Maude Fréchoux. Bonjour Maude.
Bonjour.
Et bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Je ne t'ai pas laissé le temps de nous dire bonjour. Donc Maude Fréchoux, psychologue pour l'école des parents et des éducateurs, l'EPE. Et puis enfin, la petite nouvelle, mais je vais arrêter de le dire parce que maintenant elle est plus nouvelle, hein, c'est Léa Baltus. Bonjour Léa.
Bonjour.
Léa, tu travailles pour l'association Grandir Ensemble, tu fais de l'accompagnement et du soutien à la parentalité.
Oui, j'anime des ateliers de soutien à la parentalité pour les groupes de parents.
Eh bien justement, ça tombe bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais pour démarrer, vous allez entendre ça, une petite surprise. J'avais envie d'introduire cette émission avec une grande dame qui a fait beaucoup pour l'écoute des enfants.
Les parents voudraient que leur enfant soit la réussite totale, qu'il ne soit jamais malheureux. Or, un enfant qui ne serait jamais malheureux, ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas ne pas être malheureux. Mais s'il peut exprimer à quelqu'un qui ne va pas tomber malheureux parce qu'il va le lui exprimer, mais qui va l'aider à dépasser ce malheur et en tirer une expérience, alors il fait office de parent qui aide son enfant à assumer les épreuves d'un être humain sur Terre, qui n'arrivera jamais à se faire comprendre par un autre. Jamais, jamais.
Voilà, vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agissait de
Françoise Dolto.
Françoise Dolto, psychologue, qui a été la première à dire qu'il fallait parler aux enfants et même le plus possible aux bébés.
Oui, effectivement, elle a beaucoup œuvré sur l'écoute et la parole, de parler à l'enfant et d'écouter l'enfant. Voilà, donc je crois qu'elle était une des premières, oui, à beaucoup insister auprès des parents sur la nécessité.
Françoise Dolto, qui avait une émission de radio, d'ailleurs, dans les années 70-80, sur France Inter, et qui répondait directement aux questions des parents. Alors, une question des parents, par exemple, qui est, eh bien, à partir de quand mon enfant doit-il consulter?
Je dirais que ça dépend un peu de...
Maude.
Il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement, quand l'enfant exprime un mal-être, commence à dire à ses parents ou au niveau de l'école quelque chose qui l'inquiète. Donc je pense que là c'est important de commencer à écouter son enfant et voir ce qui se passe, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai envie de dire à partir du moment où l'enfant est en difficulté pour fonctionner dans son quotidien, il y a peut-être quelque chose à regarder. Voilà, c'est quand il y a un élément de vie qui vient impacter l'enfant et qui fait que l'enfant est parasité par quelque chose qui l'empêche d'être bien avec ses copains, qui l'empêche de rentrer dans ses apprentissages, qui l'empêche de jouer, qui a des plaintes somatiques aussi. Hein, très important. Les enfants ont beaucoup des plaintes somatiques. Notamment chez les petits, mal de tête, mal de ventre, ça c'est quelque chose qui est récurrent. Chez les ados, pareil, hein, on a beaucoup de plaintes somatiques aussi qui peuvent nous alerter. Mais après, j'ai envie de dire aussi que ne pas tout psychologiser, c'est-à-dire que le parent, il est quand même le premier écoutant de l'enfant. Donc, on peut très bien accompagner son enfant en tant que parent et être présent, disponible pour... Voilà, pour essayer d'accueillir sa parole, ses angoisses, ses peurs, ses soucis à l'école. Voilà, ça peut être déjà ça, la première étape. Pas forcément aller voir un psychologue directement.
Parce que, bon, je pensais que il y a quelque chose de l'instinct aussi, hein, quand même. Un peu de l'instinct là, où Ouais, je le sens pas là. Là, c'est ça me dépasse un peu en tant que parent aussi. On a déjà essayé de lui en parler, ça fonctionne pas, et on ressent en tant que parent, c'est, voilà, comme on me dit, hein, l'instinct un petit peu maternel ou paternel en disant non, mais là en fait, il me faut quelqu'un, voilà, pour m'aiguiller et voir, voilà, ou peut-être seulement rassurer. Mais dès lors où on ressent ça, je pense qu'il faut pas hésiter. Parce que ça peut aussi juste rassurer. En fait, il va bien, et c'est pas si grave que ça. L'école observe des choses, bon, voilà. Mais ce professionnel va pouvoir un peu évaluer où c'est qu'il en est, l'enfant, et qu'est-ce qui se passe pour lui. Et puis, souvent, moi, je dis, c'est quand tout est difficile.
C'est-à-dire
que rien n'est facile. Partout, il y a des problèmes. Partout, il y a même des petits problèmes dans les relations, à l'école, à la maison. Ils refusent tout, manger, boire,
se laver,
l'école,
trouble du sommeil,
les devoirs. Tout. Il n'y a pas juste un truc qui est compliqué. Par exemple, juste les repas. Et voilà, tout devient vraiment un sujet à difficulté. On va dire, là, il est important de consulter, oui.
Alors, les consultations chez les psys sont bien démocratisées, on va le dire comme ça, hein, à tel point que maintenant, ben, on envoie un peu son enfant chez le psy comme on l'enverrait, à la boulangerie, ou presque. Mais dans certains endroits, c'est pas toujours facile non plus de trouver un psy. Et puis, il y a des psys qui prennent les adultes. Mais qui prennent pas les enfants. Il faut être spécialisé, non, Maud?
Oui, je pense qu'il y a effectivement des psychologues qui sont pas spécialisés chez l'enfant. La grosse barrière quand même que les parents auxquels sont confrontés les parents, c'est le côté financier.
Absolument.
Voir un psy en libéral, ça coûte quand même, et ça c'est pas anodin. Il faut quand même, la fourchette de prix, hein, pour aller voir un psychologue, c'est de 50 à 70 euros la séance, donc non remboursée, hein,
oui,
parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que le psychologue n'est pas pris en charge, hein, contrairement à un pédopsychiatre qui est un médecin, parce que beaucoup de parents se font la confusion entre un pédopsychiatre et un psychologue. Non, un pédopsychiatre est un médecin pris en charge par la sécurité sociale, alors qu'un psychologue non. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge des remboursements
quelques séances.
Mais ça peut être 3 séances à l'année ou 4 séances à l'année, et sur des taux très bas. Moi, je prends l'exemple, parce que moi, c'est de ma mutuelle à moi, hein, que j'ai regardé. Ça s'appelle les médecines douces. Alors, on est englobé dans les médecines douces, donc ostéopathie, psychologue. C'est 25 euros la séance. 25 euros la séance, un séance de psy ne coûte pas 25 euros. Donc, il y a quand même une reste à charge important chez les parents. Selon les secteurs d'habitation du parent, il n'y a pas forcément aussi des psychologues à disposition. Donc c'est vrai que c'est délicat, c'est compliqué de trouver un psychologue, et c'est coûteux.
Alors dernièrement, il y a eu le dispositif Mon Psy.
Oui, alors ça, effectivement, il y a un dispositif Mon Psy avec du coup 8 consultations prises en charge pour les enfants, mais c'est des psychologues qui s'inscrivent dans ce dispositif, sachant que la prise, enfin le taux proposé est quand même un taux qui est quand même pas très important, pas très élevé pour les psychologues. Et il y a beaucoup de psychologues qui s'y retrouvent pas parce que les tarifs de consultation sont assez bas. Je crois que c'est combien, c'est 45 euros, 50 euros.
Je connais pas les tarifs. C'est 30 euros pour une demi-heure.
C'est des courtes périodes.
En fait, ça ressemble plus à une forme d'évaluation de la problématique, parce que dès lors où il y aurait des besoins plus importants ou que la problématique ne soit pas légère, entre guillemets, le dispositif s'arrête. Dans le cadre de ce dispositif. Je pense notamment, par exemple, à des enfants qui ont des troubles anxieux scolaires. Ça rentre pas dans le cadre. Donc, dès lors que la psychologue qui est conventionnée pour ce dispositif Mon Psy, il va dire non, il y a une réorientation de l'enfant.
Oui, puis on rappelle que c'est quand même 8 séances. Il faut passer par son médecin généraliste.
Oui, tout à fait. Qui va prescrire.
Prescription médicale.
Voilà, oui. C'est sous prescription médicale. Il y a c'est très controversé donc par les psychologues pour différentes raisons. C'est pas le lieu. Donc il y a très peu de psychologues qui sont conventionnés aussi.
Voilà. Tout à fait. Mais on peut quand même trouver la liste sur le dispositif monpsy.fr si on tape ça sur internet.
Après il y a d'autres choses que les parents doivent connaître. Effectivement, si par exemple vous êtes, l'enfant est accompagné pour des troubles du type TDAH.
Alors troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité.
Avec ou sans hyperactivité. Voilà. Donc là, c'est une prise en charge de l'hôpital, clairement, qui va évaluer et tester et dépister en tout cas le trouble. Où là, il y a une plateforme qui s'appelle Occitadis. Qui est une plateforme là au niveau régional où effectivement là il y a une prise en charge possible pour que l'enfant soit accompagné par un psy ou autre ergothérapeute,
il y a plusieurs psychomotriciens
et là il y a vraiment une allocation qui est proposée pour alléger aussi le coût que le parent doit dégager mais là il faut vraiment qu'il y ait un trouble avéré et qu'il soit vraiment validé par l'hôpital,
diagnostiqué par un médecin psychiatre.
Pas forcément parce que c'est l'étape avant diagnostic. Dès lors qu'il y a des difficultés d'ordre trouble d'apprentissage, y compris le TDAH, donc ça peut être aussi dyslexie dysorthographie, etc.
Oui.
Mais là, encore une fois, pour accéder à cette plateforme, il faut un médecin de première ligne inscrit, qui peut actionner
le dossier.
Ça peut être un généraliste, ça peut être son
généraliste. Normalement, ce sont des généralistes. Voilà, qui ont reçu une petite formation pour enfin actionner ce plateau qui va donc, du coup, avoir un regard pédopsychiatrique sur l'enfant, un peu à distance, en disant tel symptôme, telle difficulté, on va faire tel bilan et tant de séances avec un professionnel, l'autre professionnel, etc., qui doivent eux aussi être conventionnés et qui sont donc payés par cette plateforme.
Okay. Après, il y a aussi la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, qui délivre une allocation aussi handicap pour l'enfant, donc une aide, un soutien parental, où là le parent, on verse au parent tous les mois une allocation, lui permettant aussi de pouvoir payer des prises en charge.
Voilà.
Donc il y a plusieurs dispositifs. Alors c'est un peu le parcours du combattant quand même pour les parents. On est là avec nos repérages à nous et puis nos accros. Mais c'est pas évident pour un parent de s'y retrouver. Il y a quand même aussi dans l'éducation nationale les enseignants référents qui peuvent être une aide aussi pour les parents.
Mais ça, c'est dès lors qu'il y a un handicap.
C'est spécifique au handicap.
Il y a vraiment des sillons comme ça de prise en charge possible selon les problématiques. Et il faut pas hésiter si on a vraiment cette inquiétude un peu par rapport à son enfant de faire intervenir un professionnel si on n'a pas les moyens. Il y a les points écoute par exemple de l'EPE.
On
en parlera bien sûr, mais juste avant je voulais vous faire écouter donc cette chronique de Julie Beffort qui travaille pour l'association Grandir Ensemble. Elle est accompagnatrice en éducation relationnelle et émotionnelle et donc elle va nous donner son avis sur les différents types de prise en charge.
Dans cette chronique, nous allons parler des professionnels de l'accompagnement de l'enfant. Je choisis ici d'aborder cela en évoquant les praticiens auxquels on ne pense pas toujours, qui sont un complément précieux à la psychothérapie. Souvent, on peut identifier facilement, sur un territoire ou une commune, les acteurs du domaine psychosocial, grâce notamment aux professionnels de l'action sociale comme la CAF, qui permettent cette visibilité des psychologues et des psychothérapeutes, ou encore des référents famille. On peut également découvrir d'autres praticiens qui méritent de faire un peu de lumière sur eux. Les enfants traversent au cours de leur parcours et à tous les âges, du bébé à l'adolescent, des problématiques spécifiques. On peut choisir de les aborder par le soin apporté soit au corps, soit aux émotions, soit au mental, ou tout mélanger. En tant que maman, j'ai pu trouver du soutien auprès d'ostéopathes, de micro-kinés, ou encore de kinésiologue, avec le lien corps-émotion, pour les grands chagrins, les longues colères, les crises, le stress, la fatigue physique ou émotionnelle de mon enfant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la micro-kiné peut aider à résoudre ou soulager des dysfonctionnements psychologiques ou physiques, et certains sont experts dans le soin apporté aux enfants et peuvent accompagner les séquelles de traumatismes de façon très positive. La kinésiologie, elle, est une pratique de soins non conventionnels qui associe médecine traditionnelle chinoise et souvent ostéopathie ou d'autres techniques. Là où elle me semble le plus efficace, chez les enfants, c'est pour soulager ou résoudre, trouver un mieux-être physique, social et mental. Il existe encore d'autres pratiques particulièrement adaptées à l'enfant. Je ne vais pas tout lister ici. Mais mon intention est de donner un éclairage sur des pratiques méconnues, abordées par des professionnels bienveillants, experts et fondamentalement accueillants, accompagnants et non jugeants. J'ai eu l'occasion parfois de rencontrer des thérapeutes en biodynamie qui travaillent dans le domaine psychocorporel. La particularité de leur savoir-faire est de focaliser sur ce qui est sain chez une personne plutôt que sur ses dysfonctionnements. Ils accompagnent les enfants, comme les adultes, vers une autorégulation par la créativité notamment. Et enfin, ça me semble nécessaire de vous parler de ces professionnels qui accompagnent les enfants avec des outils pour explorer l'estime de soi. On va entendre parfois parler d'éducation relationnelle et consciente, ou relationnelle et émotionnelle, ou de communication non violente. Des praticiens un peu plus dans l'ombre, et qui méritent que l'on s'attarde sur leur savoir-faire. Permettre aux enfants de prendre conscience de leurs compétences et potentiels, de leur vulnérabilité, de comprendre leur relation aux autres. Permettre d'aborder les difficultés, les obstacles, d'aborder les conflits en prenant soin de soi et de l'autre. Un chemin vers l'autonomie. Ces thérapeutes accompagnent chaque enfant à découvrir ce qui est doux, est bon pour lui. Prendre soin de soi et de sa relation aux autres. Mettre des mots sur ses ressentis, à son rythme, oser dire, apprendre à se connaître et s'accepter, se donner une juste valeur. Accompagner les enfants par le jeu, l'écoute, la créativité, afin de nourrir la confiance et la sécurité intérieure. Voilà le travail de ces thérapeutes. Ces thérapies en marge sont des compléments de choix à un accompagnement psychothérapeutique. Et je me dis que les enfants, avant tout, choisissent une personne. Prenez le temps de trouver la personne avec qui votre enfant va se sentir en confiance pour l'accompagner.
Voilà, Léa, tu souhaitais rebondir sur cette dernière phrase, l'histoire de cette rencontre.
Oui, la rencontre entre le professionnel et l'enfant. Le professionnel qui va accompagner l'enfant, c'est vraiment... Finalement, ce qui va aussi être le cœur de l'accompagnement, c'est la relation entre cette personne qui accompagne et l'enfant. Et que donc, du coup, des fois, on peut se retrouver face à un professionnel, s'être adressé à ce professionnel et que la rencontre se fasse pas, que les choses n'avancent pas, qu'on voit pas de changement dans le comportement de nos enfants et dans son état. Et que donc, du coup, il faut pas hésiter à chercher, à continuer à chercher parce que, en fait, il y a beaucoup de professionnels et donc on peut faire appel à différentes personnes et pour trouver la personne juste.
Tout à fait, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une orthophoniste qui va faire finalement un peu, souvent office de psy un peu pour les enfants. On le retrouve beaucoup chez dans cette
l'orthophoniste, il y a une partie dans leur pratique mais dans leur formation qui s'appelle la guidance parentale, hein. Donc effectivement toute personne qui travaille avec d'autres personnes, il y a forcément quelque chose de la relation qui va se jouer.
Et c'est ce qu'on appelle aussi le transfert en thérapie.
Oui, oui. Hein, et puis pour rebondir par rapport à ce que dit Anne-Marie, c'est que différencier le psychologue et l'écoute, c'est-à-dire que n'importe quel professionnel de la relation peut écouter un enfant. Moi, je prends le cas notamment des infirmières scolaires au niveau des collèges, hein, qui font un très très beau travail aussi au niveau des adolescents. Et parfois, je dis, l'adolescent, il a trouvé son support, il a trouvé une personne de fiable qui a un accompagnement, une bienveillance, une disponibilité, et ça peut suffire à l'enfant. Pas forcément obligé.
D'avoir une thérapie et
de couper la relation, parce que si l'enfant est en confiance avec ce professionnel, pourquoi aller chercher un autre professionnel? Absolument. Si ça se passe bien avec elle, il n'y a pas de raison qu'on change. Donc ça, c'est aussi important à l'avoir en tête.
Tout à fait. Anne-Marie, que dans ta pratique, dans le programme de réussite éducative, vous recevez des enfants tout seuls aussi ou exclusivement accompagnés des parents ?
Alors, premièrement, un enfant n'existe pas sans ses parents, hein, ne l'oublions jamais. Beaucoup de professionnels adorent travailler avec les enfants. Il faut toujours leur rappeler avant de commencer des études ou quoi que ce soit, c'est que voilà, l'enfant n'existe pas tout seul. Voilà, il y aura toujours une forme de parentalité qui sera présente. Et l'accompagnement et la guidance, du coup, des parents aussi. Mais nous, on travaille plus avec l'enfant, donc en individuel, avec des référents PRE qui sont des éducateurs. Mais il peut y avoir aussi des séances avec la psychologue de notre équipe. Parfois, séance pour les parents, parfois séance pour l'enfant. Ça dépend de la problématique et la prise en charge, puisque on ne fait que des parcours 100% personnalisés, individualisés, en fonction des besoins de l'enfant et de ce que la famille souhaitent, puisque quelle est leur demande, puisqu'on n'est pas, on est un dispositif qui est volontaire, c'est le parent qui vient nous voir en disant il y a ça et ça et ça qui se passe, et voilà, on aimerait que ça change. Donc forcément, c'est à partir de là que les objectifs de prise en charge seront émis, et avec leur validation évidemment, voilà, et qu'on va avancer avec l'enfant en individuel avec leur référent, donc qui est aussi une autre forme d'accompagnement de l'enfant dans sa globalité, ses problématiques et des choses qui veulent changer. Des fois c'est les enfants, hein, qui nous disent vraiment j'en ai marre de faire des crises pour le devoir, quoi. Je voudrais bien que ça se passe super bien, que pas tous les soirs, voilà. Et c'est pas le parent, il aimerait bien aussi, mais l'enfant, lui aussi, voilà, peut nous dire, ou alors, des ados, oui, non, mais en fait, mes parents sont trop exigeants, quoi. Voilà, donc, moi, je veux bien, hein, mais là, moi, je pourrais jamais être parfait, donc, s'ils pouvaient un petit peu relâcher, là, voilà, j'aimerais bien, donc, c'est ça aussi, donc, forcément... Toutes ces problématiques, ou peu importe ce qu'on peut rencontrer, il s'agit aussi de pouvoir retravailler avec les parents derrière, et pas que l'enfant.
Maude, dans tes consultations, tu reçois des enfants parfois qui ne parlent pas. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode, outil, médiation pour entrer en relation avec ces enfants?
Alors, nous, la particularité, c'est-à-dire qu'on a deux ici, en tout cas sur l'ODEV, hein, mais sur d'autres lieux aussi, il y a à la fois des points écoute parents et des points accueil écoute jeunes, ce qui est deux dispositifs très différents. Nous, sur les points écoute parents, on est vraiment dans l'accompagnement du système familial. Hein, je rejoins Anne-Marie, l'enfant est inscrit dans un système familial, donc l'enfant extrait tout seul, c'est quelque chose qu'on pratique pas. En fait, notre cœur de travail, c'est vraiment s'appuyer sur les compétences parentales pour faire avancer la relation parent-enfant. Je peux sur des petits temps recevoir les enfants seuls, mais c'est vraiment sur des petits temps, et vraiment l'objectif des rencontres et de l'accompagnement, c'est d'inclure le parent dans l'accompagnement. Comme Anne-Marie, qu'on peut très bien faire des rendez-vous qu'avec les parents, des rendez-vous avec les beaux-parents, des rendez-vous avec les beaux-parents et puis les enfants. Enfin voilà, c'est une espèce de montage comme ça en fonction de la problématique repérée. Et pour répondre à ta question, moi je travaille beaucoup avec le jeu. J'ai un coffre, hein, dans la salle où j'ai tout un tas des Playmobil, des jeux de société, et donc on peut très bien aussi démarrer une rencontre avec un enfant, parce que c'est vraiment une histoire de rencontre avec un médiateur qui est le jeu, qui marche très bien en général avec les enfants. Les enfants sont assez friands généralement de jeu, et puis je demande aussi aux enfants ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des enfants qui ne souhaitent pas que le parent quitte la pièce, donc on pose toujours la question à l'enfant: Est-ce que tu accepterais de me voir un petit peu tout seul, toute seule, pendant, voilà, tout dépend de l'âge, ça peut être juste 15 minutes au départ, hein, quand c'est des tout petits.
Parce qu'il y a des enfants qui
ne souhaitent pas, ils peuvent pas. Hein,
qui me demandent aussi que le parent sorte.
Voilà, et après il y a d'autres enfants qui ont besoin de dire quelque chose en particulier, et là qui ont besoin que le parent sorte. Donc là aussi, il y a cette chose-là. Pour les points accueil écoute jeune, on est sur une autre dimension où là vraiment il y a un accompagnement parce que c'est du fait de l'âge, hein, la maturité de l'enfant. Il y a vraiment l'accompagnement de l'adolescent sur des entretiens qui peuvent durer trois quarts d'heure, une heure, hein, avec l'adolescent tout seul, mais toujours avec en tête que l'adolescent n'est pas seul. Et moi je leur dis, hein, aux ados, tu sais, moi je vais à un moment donné faire des liens avec ton parent. Donc soit on va organiser ça ensemble et on va organiser des rencontres avec tes parents, ou en tout cas, moi, je vais me mettre en lien par téléphone, je vais accompagner les parents aussi parallèlement. Donc, il n'y a pas l'adolescent extrait, pareil, tout seul.
Ce qui est un peu différent de la maison des adolescents, par exemple, oui. Où là, on a la possibilité de recevoir des adolescents qui viennent sans leurs parents, oui. Et dont on va, s'ils ne le souhaitent pas, on ne va pas mettre au courant
Alors,
leurs parents.
Nous, on a aussi des situations, moi, j'ai en tête, là, deux, trois jeunes que je suis sur l'ODEV, alors c'est plutôt des grands ados, quand je dis grands ados, c'est 17, oui. Voilà, 18, où là, effectivement, il y a un accompagnement, là, j'en ai quelques-unes, là, notamment des jeunes filles, où je n'ai pas vu les parents. Mmh. Et ça fait quasiment un an que je les vois. Parce que là, il y a cette nécessité d'autonomie de l'ado et de pouvoir créer, se projeter dans un futur sans forcément avoir ce parent-là. Et là, je rejoins ce que dit Anne-Marie, c'est souvent des jeunes qui sont soumis à des exigences parentales un peu fortes.
Oui, tout à fait.
Et ils ont besoin de s'extraire de ce poids parental et du coup d'être avec un autre adulte qui leur permet d'être ce qu'ils sont et sans avoir ce parent et cette parole de parent qui leur dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois... Voilà, donc ça c'est aussi effectivement un projet.
Voilà, puis nous on sait aussi que ces enfants vont avoir accès à une parole peut-être plus libre parce
Tout
qu'ils sauront qu'il y a confidentialité.
Exactement.
Et, ça, je et que les
aussi.
Espaces ne sont pas pour eux.
Voilà.
Voilà, puisqu'on ne reçoit pas les parents, ou si on les reçoit, ce sera peut-être un autre professionnel qui va les recevoir.
Un des règles vraiment importantes que je dis aux adolescents, c'est que s'il y a à un moment donné rencontre avec son parent, en sa présence ou sans sa présence, c'est uniquement sur des sujets que lui accepte que j'aborde. Mmh. Je n'aborde jamais un sujet si l'ado me dit non. Donc ça, c'est chose qui est fondamentale. Ça, c'est la relation de confiance avec l'ado. Hein. Si
c'est
on commence
ça,
déjà
ouais.
à trahir l'adolescent sur sa parole, ça ne marche pas.
Ouais.
Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que ces rendez-vous-là, cet accompagnement-là sont gratuits pour les parents. Et ça, c'est vraiment important. Donc, aux parents qui nous écoutent ou aux professionnels, d'aller se renseigner sur notre site internet et on peut vraiment accompagner, enfin prendre rendez-vous pour les parents et les jeunes et les enfants sur des points écoute qui sont disséminés sur le territoire du département.
Donc il y a l'ODEV, Clermont-Léraud-Gignac.
En tout cas, sur le secteur, il y a l'ODEV, Clermont-Léraud-Gignac, il y a Pollan, voilà, c'est les plus près. Et après, un peu plus loin, il y a Agden, donc c'est un peu plus loin quand même, mais c'est tout gratuit. Voilà, tous ces permanences sont gratuites, ce qui permet une accessibilité pour les parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre en charge un coût d'un psychologue en libéral.
Léa, vous, votre travail avec Valérie Orvin consiste aussi à recevoir des parents, des ados, des enfants, etc. Et alors, c'est pas gratuit, mais il y a une prise en charge de la CAF, je crois. Hein.
Alors, en fait, les ateliers de parentalité sont gratuits.
D'accord.
Les groupes d'ateliers de parentalité sont gratuits parce qu'on est soutenus par la CAF et le département ou la région, je me trompe toujours, pardon. Et donc, du coup, il y a juste le coût de l'adhésion. Pour des questions de couverture corporelle,
oui.
Assurance, mais sinon les ateliers sont gratuits.
D'accord, et le coût de l'adhésion est de combien ?
C'est 20 euros.
D'accord. Et comment on vous retrouve ? Comment on trouve votre programme ?
Sur le site internet de Grandir Ensemble, sur internet, on a tous les types d'ateliers qu'on peut proposer. Il y a des ateliers où il y a un engagement sur plusieurs séances et il y a des ateliers plus spontanés qu'on a créés qui s'appellent Parents Partage. Et c'est vraiment, on vient quand il y a quelque chose qui déborde, quand on sait plus quoi, quand on est figé face à les situations, quand on se sent impuissant. Là, nous, on voulait pas que les personnes, en attendant d'une prise en charge peut-être plus lointaine, etc., on voulait qu'il y ait un rendez-vous par mois où, c'est maintenant que j'ai besoin d'écoute, que j'ai besoin de déposer, que j'ai besoin de pouvoir de reliance aussi avec les autres et que j'ai besoin de partage et d'échange aussi autour de la problématique. On voulait pouvoir offrir ça aux parents en one shot s'ils ont besoin, juste une fois, mais que la crise, pour qu'ils puissent déposer la crise et avoir un interlocuteur.
Ça, c'est à l'ODEV ?
L'ODEV, Gignac aussi.
tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir, parce que je sais ce que c'est d'avoir mal, et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse, et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer.
C'était Louane avec Secret. Alors, on va terminer ce conseil de famille avec quelques conseils.
Alors, moi, j'ai envie de dire... Maude. Alors, peut-être ça reprend ce qu'on disait en aparté, là. C'est que le parent, quand il va chercher, s'orienter pour une consultation, quelle qu'elle soit, au niveau des professionnels, alors, on peut pas forcément vérifier les diplômes des gens qu'on voit, mais c'est important quand même d'être assez vigilant sur le choix des professionnels. Mais surtout, c'est aussi ce qu'on ressent, c'est-à-dire que quand on ne se le sent pas, on arrête. Voilà, moi j'ai envie de dire aux parents ne pas hésiter quand c'est tout à fait normal. C'est comme quand on va voir un médecin, un dentiste. Si on ne sent pas en sécurité, on arrête.
On oblige encore moins son enfant. Anne-Marie.
Justement, on parlait de ça, effectivement, de faire attention aux professionnels qu'on rencontre et qu'on se fasse confiance là-dessus aussi. Dès qu'on ressent quelque chose, je suis entièrement d'accord.
Qui dérange.
Ne pas hésiter à changer, à arrêter. Donc je rejoins Maude, je suis désolée, j'ai pas d'autres conseils. Et surtout, de ne pas hésiter à consulter, tout simplement. Voilà, qu'il n'y a pas de honte et c'est une force de demander de l'aide.
On le redit souvent, ce genre de choses. Léa.
Moi, je rebondis sur la question du relais, en fait. C'est vrai qu'on est le premier accompagnant de notre enfant. Et juste quand on sent notre propre limite en tant qu'accompagnant, qu'on sent dépassé par ce que vit notre enfant, son état, ou que l'enfant est en demande, vraiment ne pas hésiter à aller prendre du relais.
Merci beaucoup. Moi, je rajouterais que je porte la parole des adolescents et que c'est important de les écouter. Et quand ils n'ont pas envie, ça ne sert à rien. Parce que quand ils ont envie, au contraire, c'est déjà la moitié du boulot qui est fait. La démarche thérapeutique, il faut que ça vienne de soi, il faut qu'ils y mettent du sens. Voilà, donc écoutez vos enfants. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Maud pour l'École des parents et des éducateurs.
Merci,
Maud Fréchoux. Anne-Marie Costams pour le programme de réussite éducative à l'ODEV.
Merci.
Et enfin, Léa Baltus qui venait pour l'association Grandir Ensemble.
Merci.
On remercie aussi Anne aux manettes de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un prochain conseil de famille.
Merci Laurent Sarsac pour la Maison des Ados.
Merci à vous. Au revoir.